Voilà, on ira rechercher les montres aussi, il faut, parce que le chauffage a eu un peu de mal à redémarrer, donc tout à fait désolé. Spécialisé dans la période moderne et qui a créé en 89 avec Marcel Rénal une association qu'il préside toujours qui s'appelle Hommage. Et vous me dites si je vous rectifierai, monsieur Benz, mais c'est une association qui a pour but de promouvoir les sites de l'époque moderne et contemporaine par des recherches archéologiques. Et c'est dans le contexte notamment de cette association que les travaux qui sont présentés ce soir ont été faits. Donc M. Benz a principalement étudié et recherché sur le château de Marly avec des fouilles de 85 et de 92. Et puis les premières fouilles à Versailles ont pu être faites aussi en 90. Donc Bruno Benz a fondé et dirige aujourd'hui la revue Marly Art et Patrimoine depuis 2007. Voilà, donc je vous laisse la parole pour nous parler d'une découverte merveilleuse avec cette grotte de Noisy.
Grand merci. Le château de Noisy n'a pas une très grande réputation, enfin il n'est pas très connu, il est quand même très près d'ici. C'était pourtant vraiment un bijou, un joyau, on va dire, à la fin du XVIe siècle. On est évidemment avant l'histoire de Versailles, on est en pleine Renaissance, et c'est Albert de Gondi qui vient s'installer à Noisy. Il installe un château à Noisy. Alors, excusez-moi, j'ai appuyé trop vite, mais. Situé donc actuellement en bordure de forêt de Marly, à proximité de Marly, donc entre Versailles et Saint-Germain. Il s'installe à Noisy autour de 1570, une résidence, un château, une résidence de campagne, disons, qui se trouve être à proximité de Saint-Germain. Donc, vous n'avez ni le château de Versailles, ni le château de Marly à ce moment-là. Saint-Germain étant proximité de Paris. Mais la cour réside régulièrement à Saint-Germain. On est à l'époque de Catherine de Médicis et de son fils Henri III, roi de France. Vous savez qu'elle a eu trois fils successivement roi de France. Donc là, c'est l'époque d'Henri III. Et Albert de Gondi est un homme influent. Il est florentin, comme Catherine de Médicis. Il est riche, il est banquier. Prête beaucoup d'argent à la cour de France. Donc, il a un poids considérable et sa femme aussi d'ailleurs qui intervient avec lui ou à différents moments sur les travaux de Saint-Germain. C'est un de leurs rôles importants, on dirait aujourd'hui surintendant des travaux pour le château de Saint-Germain. Donc Noisy évidemment est une portée de voix de Saint-Germain. On est à 10 km maximum du château de Saint-Germain. C'est la raison de son implantation à Noisy. le château bâti, on va le voir dans un instant, une prouesse architecturale. Il y a eu la prudence, sans doute, de ne pas construire un édifice qui est trop impressionnant, disons, voilà, il n'y a pas trop de raison non plus. Par contre, dans les jardins, là, il va y avoir un travail vraiment important, et notamment cette porte dont je vais vous parler. Donc, l'objet de cette conférence se limite, se consacre principalement à la grotte, mais évidemment, je vous resitue un petit peu, en général, ce château. Je vais parler plus particulièrement de la grotte, puisque nous y avons fait des fouilles archéologiques l'été dernier, et la photo précédente vous montrait une belle découverte, et c'est autour de cette découverte que je vais présenter Noisy. Voici donc le site aujourd'hui, en vue aérienne. La partie verte, c'est la forêt de Marly. Le château lui-même s'étant trouvé, voilà, on voit mieux sur cette deuxième image, avec son parc, ce qui aujourd'hui correspond à la partie sud, disons, de la forêt en lisière de Noisy et de Bailly. Je suis obligé de m'arrêter un instant sur la dénomination du château de Noisy, qui, comme vous le voyez, se trouve coupé aujourd'hui en son milieu. Évidemment, il n'y a plus de château. Le site est coupé en deux par la limite communale. Ce qui fait que le château de Noisy est autant à Noisy-le-Roi qu'à Bailly. Et même le site lui-même, vous voyez, le cadre carré à peu près du parc de Noisy est bien plus important sur la commune de Bailly actuelle que sur la commune de Noisy-le-Roi. Il ne s'agit donc pas du château de Noisy-le-Roi, nous nous fâchons avec personne. Ça n'est pas non plus le château de Bailly, c'est le château de Noisy, c'est comme ça qu'il est nommé à cette époque-là. Il est sur la paroisse de Noisy, et puis il n'y a pas les limites communales, hein, on est sur des limites de paroisse totalement différentes à cette époque-là. Et Noisy-le-Roi n'existe pas sous ce nom-là avant le règne de Louis XV, à peu près. Un peu comme Marly, qui ne sera Marly-le-Roi qu'à la veille de la Révolution. C'est Marly. Et plus anciennement, Noisy était dénommé Noisy-en-Cruy, Cruy étant le nom de la forêt de Marly, avant que Louis XIV décide de la faire nommer la forêt de Marly, mais précédemment c'était la forêt de Cruy. Donc Noisy s'appelait Noisy en Cruy. Vous voyez donc le carré rose correspond à l'esplanade du château. Évidemment, ce château aujourd'hui ayant disparu, ça lui a donné, évidemment, ça lui a fait perdre quoi, une partie de son intérêt, de la connaissance. Un peu comme Marly d'une certaine manière. Le château n'étant plus là, on le connaît évidemment un petit peu moins bien. Si ce n'est qu'à Marly, on a gardé un périmètre, on a gardé un parc, qui s'appelle bien le parc de Marly. Le parc de Noisy, plus personne évidemment, ne le délimite, ne le connaît. Ce parc est quasiment englobé dans la forêt de Marly actuelle. Et donc, par conséquent, il est quasiment invisible. Il y a eu quelques efforts faits sur place depuis peu pour mettre quelques panneaux. Je voudrais même vous montrer, peut-être si ça marche bien, voilà, cette partie ici, vous voyez, qui était dans le parc de Noisy. Alors là, c'est loti, mais cette partie-là, qu'on appelle les cordeliers, reste aujourd'hui en partie privée, c'est une propriété privée, mais garde des traces importantes de ce qui était le château de Noisy. Bon, le site a en plus particulièrement souffert des aléas de l'histoire, il y a l'autoroute qui traverse, évidemment, une saignée assez violente, la partie en haut à droite, des tirets de chasse à partir du 19e siècle qui isole, qui transforme. Le plus gros morceau, évidemment, c'est le fort. Alors, je crois que ça marche, mais ça ne marche pas. Je ne peux pas vous montrer. Bon, c'est pas grave, vous pouvez le lire de toute façon. Hein, l'emplacement du fort militaire de la fin du 19e siècle, évidemment, on l'a complètement détruit, cette zone-là, qui était une zone de parc. Hein. Il y avait quand même 2-3 bitcoins, enfin bon. Plus rien n'est visible. Et ce que j'appelle ici zone d'intervention, c'est l'ancienne partie des jardins sur laquelle nous pouvons aujourd'hui faire des fouilles, sachant qu'une partie du site n'était pas aménagée, c'était de la forêt, c'était un parc, comme voilà, toute personne importante qui avait son château avait évidemment le parc de chasse inclus dedans. Et puis j'ai mis les cordeliers à l'écart, c'est parc plutôt bien protégé, puisque ça n'a pas été reloti avec. Voilà. Ce qui est intéressant dans ces jardins, je ne vais pas en parler beaucoup, c'est le fait qu'ils sont aménagés en terrasse, les jardins en terrasse, comme seront les jardins du château de Saint-Germain, mais du château neuf, donc les jardins qui ont aujourd'hui disparu, qui sont entre la Seine et l'esplanade, et et l'allée de l'autre. De ces jardins du Château-Neuf, évidemment, il ne reste quasiment rien de visible, mais c'était des jardins qui avaient été aménagés sur un coteau, une forte pente. C'est exactement ce que Gondy, Albert de Gondy avait fait 30 ans plus tôt à Noisy. C'est lui qui importe, disons, pour simplifier l'histoire, qui importe le jardin italien, le jardin en terrasse en France, en l'aménageant à Noisy. Donc vous voyez, c'est plus discret qu'un château à la Volvicomte, là, qui impressionnerait, qui pourrait énerver le roi. Pas du tout, le château est assez modeste. Vous voyez, on a quelques représentations anciennes, ici d'Israël Sylvestre, qui nous montre, voilà, un beau bâtiment, mais qui n'a rien de, dans son architecture, qui est tout à fait de son temps, mais qui n'est pas là pour impressionner davantage. Les jardins l'étaient plus, mais c'était moins, certainement moins sensible. Voilà. Vous connaissez bien ce tableau de Patel, la prochaine fois vous le verrez, vous donnez un petit coup d'œil sur la partie en haut à droite du tableau, vous avez, je vous l'agrandis, le château de Noisy, nettement visible, qui vous montre que Noisy se trouve en co-visibilité plus ou moins avec les jardins de Versailles, en n'oubliant pas qu'il n'y a pas de château de Versailles quand Gondy s'installe. Mais la présence de Versailles va évidemment avoir une importance. D'abord parce que Louis XIII, que vous savez, a choisi le site et construit Versailles, découvre Versailles en partant de Noisy. C'est pas rien quand même. Pour l'histoire de Noisy, ça, c'est un grand moment de gloire. Alors il y a 7 ans, exactement 7 ans, le jour de ces 7 ans, ou le lendemain, il passe, son éducation change, il passe aux hommes, comme on dit, et pour la première fois, il a le droit de suivre une chasse, il se trouve que cette chasse se déroule à l'emplacement à peu près à Versailles, sur la plaine de Versailles. Donc c'est en partant de Noisy qu'il a découvert pour la première fois, donc, évidemment, les élus, les habitants du coin trouvent que c'est grâce à eux, évidemment, que le château de Versailles existe. Bah, complètement faux, en fait, évidemment, c'est un raccourci de l'histoire. Bon, vous voyez ce bâtiment. Ici, les jardins sont vraiment très sommairement dessinés, mais enfin, il faut reconnaître que là, on est sur une miniature. Hein. J'ai vraiment agrandi une partie du tableau qui n'était pas fait spécialement pour désigner ça. On a quelques autres représentations du château, ici, sur une vue un peu générale du réseau hydraulique, peu importe. On le voit plutôt de briquet de pierre, enfin, bon, dans le style de son temps. Quelques parterres sont dessinés derrière, mais ils n'étaient pas derrière, c'était devant. Donc, voilà. Là aussi, on est sur du dessin relativement simplifié. Puis on voit apparaître de Noisy plus clairement grâce à Louis XIV, grâce à l'acquisition de Louis XIV du site. C'est-à-dire que pendant 100 ans, le site appartient au Gondy, puis à Bossuet, à François Bossuet. Et puis à partir de 1675, Louis XIV achète. Ce qui est le coup de grâce pratiquement pour Noisy, en tout cas le début de la fin. Mais du coup, Noisy va apparaître sur les cartes autour de Versailles. Et là, donc, c'est deux extraits de cartes autour de Versailles où on commence pour la première fois, parce qu'on n'a pas d'éléments plus précis antérieurs sur les limites du parc de Noisy. On n'a pas d'archives très précises sur. Donc, on va supposer que ce que Louis XIV achète, c'est le château tel que Gondy l'avait construit un siècle avant, sauf, disons, preuve du contraire. Parce que, voilà, il faut arriver à retrouver l'état d'origine. Et donc sur ces deux plans, peu importe, qui sont vers 1675, on a, au moment où Louis XIV achète, le parc de Noisy qui est acheté. Louis XIV n'achète pas Noisy en réalité, il achète la seigneurie. Gondy avait lui-même acheté Versailles, donc il a fallu racheter petit à petit les territoires. Et puis pour étendre son parc, pour le parc de chasse principalement, mais aussi pour l'hydraulique, enfin, pour des raisons disons plutôt foncières, Louis XIV achète toute la région. Et en fait, en achetant Noisy, il achète la seigneurie aussi de Marly, en tout cas la partie haute de Marly. Il y a Bailly, et puis ça va jusqu'à Loucienne, hein, c'est des territoires qui allaient assez loin, qui pour quasiment tous avaient été achetés du temps de Gondy, qui lui-même était un propriétaire, donc foncier assez important dans la région. Et puis à partir de l'époque de Louis XIV, en 1683, je le mets volontairement à l'envers pour que, pour que tous les plans soient montrés dans le même sens. Pour ne pas vous perdre, on a ici. Je vais m'avancer, monsieur.
Je n'arrive pas à montrer. J'attire votre attention sur que les jardins sont principalement dans cette zone-là. Et ici, nous avons la pente.
Je vais vous parler davantage. Et bon, je disais que c'était le début de la fin de l'acquisition par Louis XIV. C'est à moitié vrai. Il commence par acheter. entretenir un tout petit peu. Madame de Maintenon va y installer son école pendant 2-3 ans avant de s'installer à Saint-Cyr. Puis après, il propose le terrain à ses petits-fils, duc de Bourgogne, duc de Berry, je ne sais plus, troisième, vous avez vu ça, sans doute mieux que moi, qui y viennent quelque peu. En 1700, il installe même un chenil, parce que là, le duc de Bourgogne, ça l'intéresse pas trop longtemps, donc il ne vient plus. Donc, nouvelle utilisation, le chenil, là, ça dure vraiment très peu de temps. Le chenil va finalement être installé à Marly, le grand chenil pour la forêt, pour la chasse à Marly. Et là, on va garder le site jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin du règne, principalement comme zone potagère, ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs, mais c'est le garde-manger probablement du château de Marly et peut-être de Versailles aussi, enfin une partie du garde-manger de Versailles et de Marly. Et puis à la fin du règne, il tente de l'offrir à je ne sais plus quel ministre qui refuse parce que c'est plus cher de le recevoir que de rien, donc les travaux sont déjà considérables probablement. Et Louis XV vendra et fera démolir en 1732 le site. On a quelques archives, malgré tout, avant l'époque de Louis XIV, et il faut bien commencer avant d'aller fouiller et avant de savoir ce qu'on va découvrir, de savoir ce qu'on peut en dire. Là, on est déjà sous Henri IV, on est vers 1606, si bonne mémoire, donc on a quelques mentions du château. Ici, on nous parle du réseau hydraulique et de la machine que Claude de Montcony aurait installée de manière. Donc on nous parle déjà qu'il y a de l'eau, voilà, c'est un élément important à Noisy. J'ai parlé du jardin terrasse, mais aussi un jardin qu'on nous mentionne avec des eaux, avec des fontaines, avec des jets d'eau. Là, vous ne pouvez rien lire, mais c'est juste pour vous montrer le journal de Jean Héroard, dont je reparlais, c'est la publication de Madeleine Foisil, une trentaine d'années maintenant. Mais le journal de santé du jeune Louis XIII est évidemment très important. Puis, comme je vous l'ai dit, il vient à Noisy, mais il n'y vient pas que pour ses 7 ans. Il y passe plus de 100 jours, entre août et décembre 1607. Et il y passe, le temps, il est, disons, sorti de Saint-Germain, il y a une maladie, on a un peu peur, en fait, il n'y avait rien de grave, mais enfin, par précaution, on l'avait isolé d'une éventuelle épidémie. À Noisy, pas très loin de Saint-Germain. Et y passant, évidemment, 3 mois et plus, Héroard, qui tient un journal quotidien extrêmement précis de tous les faits et gestes du jeune dauphin, qui n'est donc pas encore Louis XIII, Henri IV régnant, nous apporte 1001 indications. Dès le lendemain de son arrivée, dès le jour même, nous dit Héroard, ils l'ont lâché, on sent quelqu'un d'assez vivant, hein, le jeune dauphin, et donc ils nous disent que dès le premier jour, il est allé se promener partout dans le jardin, c'est marqué. Et le lendemain, Héroard cite les paroles mêmes de Louis, qui dit à son médecin, « Allons promener Mousseux et Oua. » C'est comme ça qu'il l'écrit, donc il ne parlait pas très bien, il avait quelques problèmes, Louis XIII, d'élocution. « Voulez-vous bien que je vous montre la grotte ?» Ah, c'est amusant parce que, évidemment, Héroard n'écrit pas pour nous, mais la première parole donnée à Louis XIII, futur Louis XIII, le lendemain de son arrivée à Noisy, c'est de vouloir montrer la grotte à son médecin. Et on voit dans la suite du journal que régulièrement, Louis XIII va jouer. Assez amusant, je vous le cite parce que j'oublierai peut-être de le dire tout à l'heure, j'ai la feuille devant moi. Quelques jours plus tard, Héroard note, montant la grotte, où il s'amuse à recueillir des cailloux, des coquilles tombées pour en faire une petite dans sa chambre. Voilà. Donc on voit Louis XIII régulièrement dans ce journal aller à la grotte de Noisy. On entend là le coquillage, donc on sait d'une manière certaine, disons, par ce document d'archives, que cette grotte était décorée de rocailles et de coquilles. C'est un élément évidemment important de cette grotte. C'est le premier élément certain, oui. Dans les archives, on ne peut pas s'appuyer sur un document plus ancien qui certifierait cette décoration, mais dont on aura évidemment d'autres éléments jusqu'au bout. Là, je vous passe très vite, c'est des travaux un peu plus tard, mais qui ont toujours pour intérêt de nous permettre de suivre cette grotte, de nous mentionner, d'ailleurs on l'avait déjà avec les rois, la présence des 2 étages, mais c'est pas lisible, je passe. Et je vous montre maintenant ce plan qui est sous Louis XIV, mais qui est le premier plan complet que nous ayons des jardins et qui permet de situer la grotte dans son environnement. Alors, je devais mettre le chronomètre, je ne l'ai pas mis, ce qui fait que je ne sais pas depuis combien de temps je parle. excusez-moi, je le mets. J'essaye de ne pas vous garder jusqu'à minuit. Hein, c'est pas prévu. Bon, alors j'ai pas, ça marche bien, marche pas. Est-ce que je peux, avec la souris, vous montrer les choses? On la voit là? Non, on la voit pas. Bon, bah écoutez, on a le. Tant pis, hein, j'ai le pointeur, marche pas. Je vais faire du miracle. Il veut pas, il a marché tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors, vous avez le château qui est vers le milieu de l'image, mais ce qui est important, c'est l'entourage très important de jardin. Ce qui est difficile et même impossible à comprendre comme ça, c'est qu'on est sur des terrasses. On a 30 mètres de dénivelé entre le point haut et le point bas des jardins. C'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Mais chaque partie de jardin est à peu près plane. Et aujourd'hui encore, quand on se promène dans ce secteur de la forêt, c'est tout à fait saisissant, on est tout le temps à plat et pof, brutalement, on a une montée abrupte vers le niveau supérieur. Autre plan, peut-être un peu plus précis pour repérer la grotte. Le château ici en plan, vous le voyez bien, entouré de quatre petits pavillons, un fossé sec. Et un peu plus à droite ici, la grotte tréflée, un plan avec un grand salon central et trois salles absidiales, disons, sur les trois côtés. Voilà. Cette grotte est implantée, elle n'est pas là au hasard, elle est au milieu du parterre. Elle fait la jonction entre ce qu'on va appeler le jardin haut de la grotte et le jardin bas en dessous. Le rez-de-chaussée, elle est sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée de la grotte donne sur l'allée qu'on appelle le promenoir du côté du jardin bas, même s'il y a encore un escalier, vous voyez, entre le promenoir et le jardin lui-même. Et l'étage de la grotte, qui est 6 mètres plus haut, à peu près 6-7 mètres plus haut, donne, lui, de plein pied sur le niveau de terrasse supérieur. Donc il faut bien voir cet escalier, quoi, parce que c'est lié à la fois à la présence de la grotte et puis surtout à son architecture. On a donc ce plan, mais on a aussi, et ça c'est l'élément évidemment disons le plus riche pour connaître la grotte, une description extrêmement complète faite au moment de la démolition. Donc on est en 1732, la grotte existe depuis 150 ans, je vais y revenir après sur les débuts, et on a le seigneur de Bailly qui en fait une description extrêmement précise. Voilà. Et sur plusieurs pages, quoi. Voilà. Enfin, quelque chose de bien complet. C'est l'élément d'archive clé, quoi. Parce que la fouille toute seule, on ne comprendrait pas tout. Quoi. Voilà. Inversement, on est bien ce qu'on a trouvé. Enfin, disons que ça se complète. Voilà. Très. Il nous faut des plans, c'est quand même bien précis, parce que la grotte n'est pas entière. Hein. Aujourd'hui, il reste plus de fondations, vous allez voir. Mais la description est évidemment très importante. Et puis, il commence par cette phrase. Lui, il l'a vue, hein, parce que pour l'instant, en plus, elle est quasiment pas mise en défaut, cette description, elle est vraiment très intéressante, mais rien n'était comparable à la grotte. Il commence après avoir parlé du jardin, après même parler du château, et bien, là, il arrête de fou, et là, il nous explique que la grotte, c'était le petit bijou de ces jardins, encore en 1732. D'une manière assez curieuse, disons, il ne fait état d'aucune dégradation, d'aucune usure, ce qui paraît quand même peu probable. Au bout de 150 ans, il y a quelques chances qu'on devait y voir des traces du temps. Et donc, il nous en fait une sorte de description parfaite, de description un peu idéale. Il nous montre la grotte telle qu'elle était ou telle qu'elle avait été. Voilà. Mais ça n'empêche que dans les détails qui nous sont donnés par la suite, c'est assez saisissant et extrêmement précis. Nous sommes 150 ans après cette lettre de 1582, qui, elle, est la première à nous parler de la grotte. Donc, voilà, on a les archives. On n'a pas beaucoup d'autres archives, hein, je vous aurais pratiquement tout montré. On a une description complète, et là on a une phrase, c'est en italien, hein, je vous ai mis un morceau de traduction, parce que c'est le morceau important de la lettre, mais c'est la lettre de l'envoyé, l'ambassadeur de Florence à Paris, qui est donc en contact avec les Médicis d'un côté et avec le Gondi de l'autre, et qui rapporte, il s'appelle donc André Albertani, et qui rapporte que Gondi a fait construire une grotte. On a le texte, c'est très précis, la grotte est déjà construite, mais qu'elle n'est pas encore décorée. Il nous dit, Gondi a avec lui des rocailles, et il voudrait quelqu'un pour faire la décoration. Alors, en 1582, on a déjà une certaine tradition, l'habitude des décors de grottes autour de Florence. depuis une dizaine d'années, disons, voilà, depuis en gros 1570, un peu avant, 1500, même 1550, ça démarre assez tôt à Castello, à Boboli et à Pratolino. Ce sont des grottes qui appartiennent aux Médicis, et donc on voit bien que Gondi, il a importé l'idée, ça, il n'y a pas de doute, on a déjà quelques grottes en France, hein, des grottes de pillage, c'est pas encore très répandu, ça va vraiment se développer, évidemment, ensuite. Malgré tout, déjà quelques-unes. Il y a quelques grottes, il y a celle de Fontainebleau, il y a la grotte des Tuileries, mais qui sont d'un style totalement différent. La grotte des Tuileries pour Catherine de Médicis, c'est une grotte palissie, et donc avec de l'émail, enfin, absolument rien à voir. La grotte de Fontainebleau, c'est de la sculpture. Bon, il y a quelques autres, hein. Il y a une dizaine de grottes antérieures. Il y a aussi une grotte de Gondi, enfin, en même temps. Voilà, c'est pas sa première grotte, c'est pas son premier forfait. Il possède un hôtel à Paris, près du Louvre, parce qu'évidemment, il y a toujours un logement, parfois même à la cour, mais à proximité de la cour, exactement comme ça se passera sur Versailles par la suite. Et exactement à l'emplacement aujourd'hui du fossé de la colonnade, donc là il n'y a vraiment plus rien, j'irai pas fouiller, le trou est béant. Mais à cet emplacement-là se trouvait un hôtel qu'il avait racheté, bon, peu importe, mais dans lequel, quelques années auparavant, on a des documents très précis autour de 1578, il fait construire une grotte sur deux niveaux. Bon, on n'a aucun élément sur la décoration de cette grotte de Gondi à Paris. Donc il avait déjà, voilà, c'est manifestement, mettre une grotte dans les jardins était un élément de décor, de prestige important, aussi bien à Paris donc, que maintenant à Noisy. Et la phrase que je mets en exergue, c'est que c'est pas Gondi qui demande le garçon à partir de noces, c'est bien Albertani qui dit, bah, tiens, ça serait une bonne idée finalement, il veut quelqu'un, et si on en envoyait quelqu'un de Pratolino. Et puis il détaille un peu après, il dit, ce garçon sera bien payé, et en gros, il a une opportunité là, de faire une bonne carrière. On est 20 ans avant l'arrivée des Franchini, à peu près, ils arrivent en 99, enfin Tommaso arrive en 99, il est à peine né à ce moment-là. On ne sait pas qui est venu, hein, je peux vous dire, voilà. On ne sait même pas si quelqu'un est venu. On a ce document qui me dit, bah, tiens, ça serait bien d'envoyer quelqu'un. Vu le résultat, vu ce qu'on a trouvé, vu la grotte, il y a quand même quelques chances. Voilà, restons dans... Il n'y a pas de raison d'ailleurs que les Médicis ne lui aient pas envoyé quelqu'un. Franchement, il propose de payer, bah, voilà, donc il est en relation en permanence avec eux. Mais malgré tout, on n'en a pas non plus la preuve ultime de l'arrivée d'un décorateur florentin, mais on est quand même là dans une probabilité assez haute. Et Pratolino, c'est le chef-d'œuvre des grottes à coquillages encore aujourd'hui, pour ce qu'il en reste. Donc. Bon, on a quand même encore un autre élément d'archive que je vous montre, mais après on va finir par voir la fouille, hein, rassurez-vous. Mais il faut voir ce qu'on sait déjà, et puis surtout ce que la fouille ne nous montre pas. Ça, ce sont les gravures de Marot, une série de trois gravures de Jean Marot, publiées autour de 56-59, donc disons qu'il a travaillé autour de 1650, parce que au moment où le recueil est publié, ça fait un certain temps qu'il travaille, dans ce qu'on appelle le Petit Marot. Ce sont des vignettes, hein, c'est presque des miniatures dans le détail, parce que les détails y sont, et pour l'instant, plutôt juste. Voilà, disons, de ce que j'ai pu confronter de la réalité du chantier de fouilles, évidemment, on n'a pas trouvé l'élévation, hein. Mais entre la description de Boulin, dont j'ai parlé tout à l'heure, de François Boulin, de 1732, la fouille, voilà, c'est les trois, on a de la chance, parce que quand on fouille, je le dis toujours, l'idéal, c'est pas de rien savoir, c'est d'en savoir le plus possible. Et donc, c'est vrai que si on fouille un endroit où on sait rien, bah, on découvre, et puis voilà, et puis on a ce qu'on a trouvé. Quand on fouille à Versailles, quand on fouille à Marly, on a une chance inouïe, c'est qu'on a toutes les archives derrière qui nous permettent de savoir de quoi on parle. Et ça ne fait qu'enrichir les découvertes, ça ne les amoindrit en aucun cas, parce que les documents d'archives sont jamais ils ne nous montrent pas ce qu'on trouve, et inversement. Et là, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. L'élévation, on ne l'aura sans doute jamais, et ce n'est pas la fouille qui l'aurait donnée. Je n'ai pas du tout la prétention de remonter le bâtiment en entier, on n'y arriverait pas, puis ce n'est même pas la peine d'essayer, puisqu'on a une belle coupe, une belle élévation et un plan. Bon, il y a un défaut qu'on a repéré pendant la fouille, je le montrerai tout à l'heure sur le plan, mais qui n'est pas très grave. Je voudrais vous montrer rapidement, pour l'oublier le plus vite possible, ce dessin qui est conservé à Stockholm, parce qu'il a longtemps été montré, et il est encore, disons, dans tout un tas d'ouvrages depuis 30 ans, 40 ans, comme étant un projet pour Noisy, ou même pour certains auteurs qui vont sans doute encore plus, un peu loin, un peu vite, que ce serait l'état initial de la grotte de noisies qui auraient été modifiées ensuite, notamment par la surélévation. Je réfute, voilà, maintenant, d'abord parce que Marot est parfaitement exact, ensuite parce que quand on les met l'une à côté de l'autre, oui, là, jusque-là, les proportions, ça pourrait, pourquoi pas, il y a l'antichambre, tout ça, voilà, même s'il n'y a aucune certitude sur le plan de Stockholm d'être trilobé, mais quand on met vraiment les deux l'une sur l'autre, qu'on veuille penser que si c'est une surélévation, c'est l'état de gauche, nécessairement, et rien ne se surélève du tout, enfin, ça ne coïncide pas du tout. Sur le si on peut penser que c'est un projet qui aurait été agrandi par la suite, oui, bon, de toute façon, un projet, moi je veux bien que ce soit un projet, mais en n'importe quoi peut être un projet, en tout cas, qui n'a pas été suivi du tout, ni même d'ailleurs sur les détails de décor qu'on voit, donc, allez, on oublie le dessin, si jamais vous l'aviez en tête, le dessin de Stockholm ne me convient pas. Voilà, revoilà la façade de Marot pour vous montrer qu'il y a plutôt, il y a aussi quelques parentés qui ont été trouvées. Là, c'est Meudon, en dessous. C'est la grotte de Meudon. D'un point de vue strictement architectural, sachant que de toute façon, on ne sait pas grand-chose sur les décors de Meudon. Mais là aussi, Meudon est aussi d'inspiration italienne. Enfin, oui, donc on va trouver en France tout un tas d'éléments architecturaux qui peuvent s'apparenter. Très bien. On a aussi... ici, on est en Italie, on est à Florence, on est à Palais Pitti, Jardin de Boboli, où on est, voilà, quelques auteurs remarquent, alors, on a cherché l'inspiration en France, en Italie, on a de toute façon une sorte de communauté quand même d'architecture, avec beaucoup d'Italiens qui travaillent en France à cette époque-là, et donc qu'est-ce que l'architecture française? Enfin, voilà, si c'est celle qu'on fait en France, ben, du coup, il n'y a pas de problème, Noisy est de l'architecture française. Si c'est quand on travaille, on n'a pas l'architecte pour Noisy. J'ai pas le décorateur, j'ai pas l'architecte. Enfin, pas encore, on peut espérer qu'on l'ait un jour. D'ailleurs, je pense qu'on finira par donner des noms, parce que il est impossible que Gondy ait travaillé avec quelqu'un qui n'aurait fait que ça. Enfin, impossible, hein, c'est impossible. Enfin, ça serait quand même assez miraculeux qu'il avait une telle fortune qu'il pouvait travailler avec qui il voulait. Il était en contact avec les bâtisseurs du roi de France. Donc, il a tout à fait la possibilité, soit de faire venir des Italiens. Serait donc réputé ou pas. Simplement, ceux qu'on connaît pour avoir fait des grottes avant sont morts à ce moment-là, notamment Primatis. Ceux qu'on connaît pour avoir fait des grottes après, Saint-Germain notamment, sont pas nés ou sont trop jeunes. Donc on n'a pas le nom pour l'instant, mais c'est pas grave, on commence à travailler sur le sujet. D'autres se sont intéressés, évidemment, à Noisy bien avant moi, mais laissons encore du temps, peut-être un jour pour affiner ces liens, sachant qu'ils peuvent être multiples, on peut avoir des éléments d'architecture venant de là ou d'ailleurs, il y a des liens qui ont été faits avec Annette aussi, par exemple, là on peut avoir des éléments de décor, de matériaux, de la manière de poser les choses, qui peuvent multiplier les influences. Une petite photo, cette fois, on n'est pas à l'emplacement de la grotte, on est un tout petit peu plus haut, ce que j'appelle S1 sur le plan, c'est le premier secteur 1 qu'on a été fouillé, et qui s'est avéré en relation avec la grotte. Une photo déjà ancienne, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, mais entre-temps, ce trou-là, béant, avait été rebouché, et je n'avais que, c'est vraiment pourtant très récent, ça paraît incroyable, mais que la seule tradition orale pour me dire, bah oui, il y avait un trou, et qu'est-ce qu'il y avait derrière? Bah on ne sait pas trop. Personne, on l'a rebouché sans mesurer, sans relever, sans aller voir ce que c'était. C'est un petit peu curieux, parce que c'était pas au Moyen-Âge, quoi. C'était en 2000, la photo, elle est de 2010, quoi, ou quelque chose comme ça. C'est incroyable. L'impression de sortir un document d'archive extrêmement. Mais bon, c'est grâce à cette photo qu'on a pu retrouver l'endroit, parce que les témoignages de ceux qui l'avaient vu, ils n'étaient pas des vieillards, hein, c'était il y a 10 ans ou 15 ans, ils étaient incapables, en plein milieu de la forêt, de me dire là, quoi. Disons à 50 mètres près ou à 20 mètres près. Et quand on fouille, on n'allait quand même pas retourner toute la forêt. Donc on a quand même, grâce à cette photo, pu reconnaître les arbres alentours plus ou moins exacts pour rentrer. En haut à gauche, vous avez la sortie de cette cave, parce que maintenant je l'interprète comme une cave. J'avais quelques doutes, je me disais, est-ce que c'est un équipement hydraulique, puisqu'on a des jardins d'eau. Et puis, il y a un plan que vous allez mieux voir sur ce document. On arrive par la droite ou par le haut, un plan tréflé, disons là aussi, enfin en trois parties, qui ressemble assez bien. D'abord, c'est de taille humaine, hein, on tient debout, ou à peu près, à une cave à vin. Et en fait, c'est plus son emplacement qui me fait aller, déjà la structure, elle va très bien, elle est au milieu du parterre. Ça ne pouvait pas être une glacière, si on est quand même orienté plein sud, ce serait quand même pas la meilleure idée. Par contre, on est orienté face à la grotte. Alors aujourd'hui, on se rend plus compte parce qu'on est au milieu de la forêt puis qu'il n'y a plus de grotte. Mais en fait, on est à 20 mètres ou quelque chose comme ça de l'entrée de l'étage de la grotte. L'étage de la grotte, je suis passé un peu vite tout à l'heure, c'est un salon de réception, comme on peut faire dans un château, voilà, c'est une propriété, avec une cheminée, avec des peintures au plafond, voilà, on peut s'y installer pour une collation. Mais il n'y a pas de pièce alentour. Donc si vous voulez faire la collation, il faut aller chercher un peu plus loin, et voilà, donc j'interpelle. Ce parterre haut n'a que finalement deux accès, la grotte elle-même, et puis une entrée dans le parterre qui était clos. Vous voyez, on a un système de jardin où chaque partie, du fait des terrasses, communique assez difficilement de l'un à l'autre. Il y a des escaliers, mais là, on a une sorte de parterre à peu près en cul-de-sac, sauf à accéder à la grotte. Et en face, quasiment en face de l'entrée de la grotte, on a ce petit équipement. Bon, il apparaît sur aucun document. Et donc, voilà, c'est pour montrer que la fouille avait permis là une toute petite chose, pas énorme. Et voilà donc maintenant, s'y rapproche l'emplacement de la grotte tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il était avant qu'on fouille, mais comme on a tout rebouché après être intervenu, c'est de nouveau à peu près dans cet état-là. Il faut juste laisser le temps à la visitation de repousser un petit peu. Ceci dit, on n'a pas terminé de travailler. J'aurais dû vous le dire en commençant, mais je vous présente des résultats d'une recherche en cours. Hein. On a fouillé au mois de juillet. C'est bien qu'il y a du travail pour un certain temps et que... ça, l'avantage à vous parler assez vite, d'ailleurs, ça permet de partager très vite nos premiers résultats. Et puis si je change d'avis sur certains points de détail, ça sera plus compréhensible. Voilà, on est en cours. Il peut y avoir des points qui ne soient pas parfaitement clairs encore. Donc on est au milieu de la forêt, tellement, puisque c'est intégré dès 1700 dans la forêt de Marly, et définitivement après la démolition de la grotte, cet emplacement-là est dans le parc de la forêt de Marly. Un panneau a été mis il y a quelques années qui permet quand même de savoir à peu près où on est. Et pour tout vous dire, c'est en voyant le site comme ça, avec des amis de l'association locale de Renaissance du patrimoine, qui me disaient, là, il y avait une grotte. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi, quand je vois ça, je me dis, il faut aller voir. Quoi. Manifestement, on n'a pas reconstruit, on a un dénivelé important, c'est là. Allons voir s'il reste quelque chose. C'est ce que nous avons fait. Alors, on démarre à l'appel mécanique, parce qu'on ne sait pas du tout où on va. L'appel mécanique... fait cette tranchée et puis elle s'est arrêtée tout de suite parce que à peine 50 cm de terre végétale, qui est la terre qui s'est accumulée de la simple présence de la forêt, qu'on a donné un coup de godet dans des morceaux de plâtre sculptés, décorés, coquillages, rocailles, etc. En bonne quantité. Voilà. Donc très vite, il n'y a plus de. Voilà, on fouille après. Après, on passe à la main. Je voudrais sur ces documents, vous montrer. Petite idée là, de ce qu'est la fouille, alors les documents ne sont pas d'une clarté absolue. À gauche, on est à peu près au même endroit que tout à l'heure, en vue de face, alors c'est de la photogrammétrie, donc ça replace bien le dénivelé du terrain, c'est pas très compréhensible comme ça. En bas à gauche, c'est la vue aérienne de fin de fouille, pareil, vue en photogrammétrie, donc en planimétrie corrigée. On a fouillé en réalité deux endroits, ce que je vais appeler la partie haute de la grotte qui est agrandi ici à droite, on a fait une sorte de puits, quoi. On a creusé pour voir jusqu'où ça allait et on n'a pas pu aller jusqu'au fond. C'est plutôt là où on viendra la prochaine fois en priorité. Puis un deuxième qu'on voit, là, commence à voir beaucoup mieux, deuxième partie de la fouille, plutôt du côté de l'allée, c'est-à-dire que le bas de la photo correspond à l'allée, et là on voit de la maçonnerie, ça commence à être beaucoup plus parlant. On a vraiment la grotte là, voilà. Enfin un morceau de la grotte. Mais très net. Voilà. On a une petite pièce carrée qu'on va revoir tout de suite. Je vais vous montrer. Non, d'abord chez Marot. Oui, je vous avais dit qu'il y avait une petite erreur chez Marot, donc c'était pour vous la montrer. On est à l'emplacement donc, de l'escalier circulaire, si on en croit Marot. Et très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'escalier circulaire. Quoi. Donc, on était un peu perdus pendant quelques jours sur la fouille. Ils ont dit ce qui nous arrivait, parce que j'avais visé exprès l'escalier en me disant que ce serait un point de repère assez fiable et assez particulier, voilà, qui permettait, puis j'espérais qu'il reste une marche ou deux, ça donnait un petit peu d'allure. Et en fait, il a fallu simplement inverser la gravure de Marot, ce qui arrive très souvent chez les graveurs, hein, ils partent d'un dessin, s'ils ne font pas l'effort d'inverser, ça nous le faire. Alors, Photoshop le fait très bien, et sans fatigue. Et par contre, on se trouve bien à l'emplacement de la pièce carrée, rectangulaire. Il faut voir que, manifestement, Marot a travaillé sur des documents. Hein, il n'est pas venu sur place, d'ailleurs, sinon il n'aurait pas pas fait cette erreur d'escalier, il n'a pas fait l'erreur non plus sur le nom, s'il dit grotte de Noisy-le-Grand. Alors, il y a une grotte, effectivement, à Noisy-le-Grand, mais c'est pas, on voit bien que c'est celle de Noisy qui deviendra donc Noisy-le-Roi, c'est trompé de Noisy, mais il a certainement eu des documents avec lui qui l'a gravé. Un autre indice de son erreur, c'est l'escalier qu'il a dessiné devant, qui ne correspond absolument pas à l'escalier. Tous les autres documents confirment qu'il est circulaire, à double volet, enfin, pas du tout comme ça. Donc ça, il peut... Alors il a peut-être inventé, ça lui arrive, hein, chez un gravure de Marot, il y a souvent des petites inventions, semble-t-il. Par contre, le dessin de la coupe et de l'élévation est extrêmement précise, extrêmement précis, pardon, et laisse penser qu'il avait vraiment des documents de relevé précis qui, donc antérieurs à son travail, 1650, qui pour moi ne font aucun doute que c'est la grotte d'origine des Gondis. Voilà. Je devrais quand même insister avant de vous montrer, il y a un petit document derrière, mais en haut de l'image, en haut de la photo à droite, vous avez cette petite niche circulaire, c'est celle que je vous ai montrée en photo tout à l'heure, on y reviendra, mais qui est importante à bien situer dans la fouille, en bordure de la fouille, on a fouillé cette petite niche qui correspond à la niche du salon central. Une vue en coupe de nos fouilles, le trait jaune correspond au terrain actuel, la partie un peu noire en dessous, c'est celle qu'on a fouillée, en tout cas dans l'axe de la tranchée mécanique, relativement profond, à gauche, vous voyez, mais on n'a pas été, il manquait de l'ordre de 20 cm pour aller sur le sol ancien, donc on ne l'a pas trouvé, et puis on a abandonné, c'était un peu compliqué. Par contre, dans la partie droite, là, on a fouillé complètement jusqu'au sol, sans le défaire, sans chercher à passer en dessous, et puis j'ai dessiné, bien en grisé, ce que Marot nous dit être l'élévation de la grotte, et voici donc maintenant en complet la grotte, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, on en a vu qu'une toute petite partie. Par contre, en remblai, là on a des éléments précis. Tout à gauche de l'image, on est donc sur le salon, la salle du fond, on montrait, si on faisait la fouille complète, et c'est un des projets, jusqu'à 4 mètres, 5 mètres de remblai. Et de remblais, c'est pas des cailloux ou de la terre qu'on a jeté sur un trou. Dans ces remblais, il y a les éléments de démolition de la grotte. Voilà. Donc, toute la partie rose n'a pas été fouillée, la partie noire l'a été. Ah, évidemment, on n'a pas la grotte, on s'attend pas à retrouver le premier étage. Oui, il est vraiment dans les airs. Mais voilà, c'est une des hypothèses qu'on formule actuellement. Où est passée la démolition du premier étage? Pour l'instant, on a eu l'impression de ne rien retrouver du premier étage dans ce qu'on fouillait. Tout correspondait au décor de la grotte. Vous voyez, il y a deux bâtiments. Il y a la partie grotte au rez-de-chaussée avec le décor de rocailles et de coquillages, qui est vraiment la grotte en fait. Enfin, tout s'appelle la grotte, le pavillon de la grotte, il faudrait dire. L'étage, c'est un salon, cheminée, peinture, etc. Voilà. Mais je ne peux pas m'endormir le soir sans penser que c'est quelque part. Voilà. Alors, ça n'a pas dû tomber là où on a fouillé, parce qu'il n'y a pas de raison de combler le trou quand vous démolissez. Vous envoyez les graves, d'abord vous récupérez tout ce que vous pouvez récupérer, mais le plâtre c'est quasiment irrécupérable, le plâtre peint, enfin le démolisseur, il a bien abandonné tous les plâtres de coquillage, donc manifestement ça n'intéressait pas, ça n'avait pas de valeur pour lui, seule la maçonnerie de pierre pouvait avoir un quelconque intérêt, de moellon. Et donc j'espère, il faut bien rêver un peu, que l'étage est sur les côtés, voilà, on le retrouvera quand on ira fouiller. Parce que ces peintures à fresques de la Renaissance, moi j'ai un peu envie de les connaître. On a des descriptions assez précises, j'ai parlé de la description de Boulin tout à l'heure, qui donne encore plus envie de la voir, là, pas à l'instant, mais si je pouvais le dire. Les murailles ainsi que les plafonds étaient peints à fresques et sur lesquels on avait représenté des chasses d'animaux. Marot, là, il n'est pas assez précis pour qu'on reconnaisse les chasses d'animaux, mais on peut le croire. J'aimerais bien retrouver un peu de tout ça en fouille. On n'en sait rien, évidemment. Espérons. Alors, dans cette petite vidéo qui dure 1 minute 30, si ça démarre tout seul, c'est mieux, sinon c'est moi qui fais démarrer. C'est une reconstitution qui a été faite par Guy Dantan, qui est photographe, et surtout c'est une accumulation de photographies que vous voyez là, dont, à partir desquelles il fait ensuite un film comme s'il avait filmé, mais il n'a fait que des photos, ça s'appelle photogrammétrie, et ça nous donne une vue assez saisissante de la fouille à la fin du chantier. Voilà ce qu'on a mis au jour de cette grotte. Là on est du côté de l'entrée, en gros on pénètre par le vestibule, grosso modo. On a à gauche cette pièce de service qui est la principale pièce que nous ayons fouillée, enfin la partie principale, on voit une belle pierre de façade, vous voyez, à gauche, pas décorée. C'est un peu triste, évidemment, en fin de compte, parce que c'était certainement une des rares pièces non décorées, puisque pièce de service. Par contre, quand on arrive ici à droite, dans la petite niche, qu'on a vraiment trouvé, pas tout à fait par hasard, mais en bordure de fouille, c'est là où nous sommes tombés, vous les reverrez plus en détail après, les parties de décor encore en place. Vous en avez même dans la coupe, vous voyez, une dent de requin, là, qu'on a l'impression de voir, ce sont des moules, donc des fragments de plâtre décorés de moules, dont je vais vous montrer d'autres exemples tout à l'heure. Donc, la partie la plus intéressante de la fouille, évidemment, c'est la partie décorée, même si l'ensemble de la fouille a son intérêt. C'est quand même la découverte des rocailles qui m'amène jusqu'à vous aujourd'hui, même si le reste est intéressant. Par exemple, un tuyau. Voilà, dans la démolition, on trouve ce tuyau en plomb de 50 cm de long. En tant que tuyau, il est déjà intéressant. Il est en cours d'analyse, d'ailleurs, en ce moment, pour voir la composition du matériau. Tout ça, c'est évidemment très intéressant. Ce qui est évidemment parlant, c'est la fontaine. Alors, j'ai agrandi ici le mieux qu'on peut, mais c'est vraiment de la miniature, hein, chez Marot. Mais en bas à gauche, vous voyez le dessin de cette fontaine dont le jet d'eau sortait par un trou en haut de la voûte dans le jardin. Bon, alors là, on est vraiment dans un bel effet de jardin d'eau, de jardin de la Renaissance et de même, disons, de jardin italien. On n'a nulle part vu ça en France. Il y aura des jeux d'eau à Saint-Germain quelques temps plus tard. C'est un jet là, qui monte jusqu'à 8 mètres de hauteur, donc qui vient d'un bassin nettement plus loin, parce que même s'il y a du dénivelé dans le terrain, il faut aller chercher l'eau, il faut la capter, il faut la conduire, et puis surtout faire cet effet qui devait être tout à fait amusant et qui faisait partie, voilà, des délices de la visite de la grotte. Et si on a montré ça au jeune Louis XIII, je comprends qu'il n'avait qu'une envie, c'était d'y retourner. Voilà. En bas à gauche, hein, cette fontaine, elle est décrite de cette manière par Boulin. Alors, on n'a toujours pas fouillé l'emplacement, c'est prochaine campagne, on ira certainement par là. Bon, soit ils l'ont démonté, ils l'ont retiré, et puis on la retrouvera quelque part, par chance, miraculeusement, soit elle était en tel état qu'ils l'ont plus ou moins abandonné, démoli sur place, ça on le saura. J'aimerais bien en retrouver quelques morceaux, la description elle est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Une espèce de buffet de rocailles et de coquilles, donc, la fontaine elle-même est ornée, avec deux dauphins sur les côtés qui jetaient de l'eau dans une grande coquille de pierre qui retombait ensuite en nappe dans un bassin au-dessous. On avait pratiqué en cet endroit une ouverture ronde à la voûte, enfin c'est ce que je vous ai dit, afin évidemment que l'eau, le jet d'eau sorte à l'extérieur. Bon, on la devine plus qu'autre chose, hein, donc tout l'intérêt de la retrouver. Ce serait malgré tout intéressant de la retrouver, même si on avait le dessin complet. Et ce tuyau nous rappelle qu'on est donc sur un bâtiment d'hydraulique aussi. C'est une fontaine avec de l'eau. On appelle fontaine sèche, grotte sèche les grottes sans eau. On a une grotte sèche aussi à Noisy, que j'évoque là très rapidement, sous un escalier. En tout cas, c'est Héroard qui nous parle que Louis XIII va jouer à la grotte sèche. C'est à peine une grotte, mais enfin, il l'appelle comme ça. Voilà, je vous ai mis un petit cercle pour vous montrer où était la fontaine, qu'on voit quand même pas très bien. Bon, une coupe là, c'est presque illisible. Si vous montrez la coupe de la fouille, on voit quand même pas très bien. On voit mieux peut-être sur ce schéma. Vous montrez que la maçonnerie a été retrouvée quand même sur une belle petite hauteur, quasiment un mètre, hein, vous avez l'échelle en haut à gauche, de mur en élévation dans cette partie-là. En fait, voilà, c'est que vers la gauche, c'est la partie qu'on n'a pas fouillée. C'est la partie où le remblai monte et où j'ai espoir, mais un espoir pas complètement fou, déraisonné, mais un peu fou quand même, que ce qu'on a trouvé en élévation sur 50 cm, 1 mètre dans ce coin-là, puisse être conservé sur une élévation bien plus haute. Là, ça serait carrément prodigieux. Voilà cette petite pièce, je vais vous montrer, elle a tout à fait son charme, vue par au-dessus, en haut à gauche, elle fait un peu plus d'un mètre, vous voyez, 1,50 m de côté, grosso modo. La belle pierre de façade qu'on a retrouvée, et qui donne envie de continuer la fouille, parce que s'il y a cette belle pierre-là, il y en aura certainement d'autres un peu plus loin. Un dallage à peu près conservé au sol, archéologiquement à peu près conservé, évidemment, c'est pareil, il en manque quelques morceaux. Comme on ne sait pas à quoi servait cette pièce, bon, je l'attribue pour l'instant pièce de service. Manifestement, elle n'est pas décorée, elle n'est pas dans le parcours de visite, elle n'est pas décrite par Boulin. Bon, il fallait peut-être bien ranger quelque part, un peu de matériel ou quelque chose. Donc voilà, n'en sait pas plus. Et on a le seuil à droite pour sortir de cette pièce vers le vestibule. Dans la fouille, on a retrouvé de nombreux éléments de sol, et notamment donc ces beaux carreaux hexagonaux. Ah, petit problème, là, ça s'arrête, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Moi, ça s'est pas arrêté. Ah, ça partit. Hop, ça s'arrête encore. Qu'est-ce qu'on peut faire hein? Pas de signal, il est fâché avec nous. Ah, c'est revenu. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire si ça va, ça va. Et en bas à droite, je vous ai mis un carrelage, disons, contemporain, c'est Pompienne, mais c'est juste pour montrer voilà, comment s'agence les petits cabochons qui sont bleus, là, pour l'instant, sur ce qu'on a trouvé à Noisy, avec les hexagones plutôt... les octogones, pardon, plutôt jaunes. Et on a dans la description de Boulin, exactement, la précision de l'existence. Alors, il ne nous dit pas tout à fait comment est le carrelage, il nous dit qu'ils ont la même forme que les caissons du plafond. Vous verrez que les caissons du plafond sont sur ce modèle. Bon, pas spectaculaire. Plus spectaculaire, par contre, c'est des corps de sol en petites pierres incrustées. Là, j'ai envie de vous lire la description de Boulin, parce que c'est ce qu'on savait avant de fouiller. Donc, quand on trouve ça, on dit, ben voilà, on est tombé dessus. Alors, des milliers ou des centaines de petits à gauche, là, de petites pierres que là, nous présentons d'une manière accumulée, parce qu'il faut bien les ranger quelque part. Mais par contre, sur la photo de droite, c'est pas facile. Je vais m'approcher pour bien vous montrer où c'est. Sinon, c'est à peine visible. Vous voyez, toute la bordure ici, en place, intacte, conserve ce type de petits. Alors, comment il nous dit ça, Boulin? On avait incrusté dans la pierre des millions de petites pierres noires, rondes et grosses, au plus comme des noix de muscade, qui faisaient le fond de cette mosaïque et qui étaient tellement unies et attachées ensemble par un mastic si solide qu'on n'en pouvait arracher une. Bah, c'est ce qu'on a retrouvé. Alors, parfois sur des blocs entiers, comment c'était ajusté par rapport au carrelage octogonal avec les manches, je n'en sais rien. Il faudra fouiller davantage. Là, on est sur une petite banquette face au décor. Bon, voilà. Il y avait certainement une partie du sol en carreau et une partie avec ces belles petites pierres du fond, donc de l'ordre de 2 cm. Alors, il est un peu fâché avec nous. Est-ce que ce sera un faux contact? Ah ben, voilà, c'était pour vous montrer plus précisément cette petite niche. Elle est la fouille, oui, on a failli pas fouiller ça, quoi. C'était vraiment, on va dire, un coup de chance d'étendre la zone de fouille, parce qu'il y avait une partie assez arbitraire dans le choix de l'emplacement où on fouillait. Franchement, j'en espérais pas tant, j'espérais pas à ce point-là. Et on retrouve exactement ce que j'ai numéroté ici, B1, B2, B3, vous voyez, des niches dans la niche, quoi. Voilà, c'est qu'on a chez Marot, qui donne donc du crédit, du coup, à Marot, et qu'on retrouve réellement. Et ces éléments-là, voilà, maintenant, vu de face, c'est une alternance de motifs, disons, architecturaux, que j'ai appelé des corbeilles, pour l'instant, faute de mieux, qui ont des cadres en stuc, avec cette partie ovale centrale, délimitant des zones rocaillées, plutôt jaunes, hein, vous voyez, sur les extérieurs, et ocre, rouge, au centre, avec un coquillage, on aura une vue un peu plus de détails ensuite. C'est une face nacrée je ne sais quel coquillage, parce que là on ne l'a pas démonté, donc bon, il faudra y retourner en voir d'autres pour savoir peut-être un normaux ou peu importe. Et ces éléments, alors là on est au niveau du sol, hein, quasiment, on n'a pas fouillé complètement plus bas, mais manifestement il y a peut-être encore 10 cm, on n'a pas pu le voir, on était dans une telle situation d'exiguïté qu'on ne pouvait pas. Il faut voir aussi que la photo là, ici, a plané, hein, ce qui était circulaire. C'est une photo panoramique. Voilà. Mais vous voyez, on a jusqu'à quasiment 2 mètres quand même de décor complet. Et donc ça alterne avec des motifs, mais je vais d'abord vous montrer plus en détail donc les parties de corbeilles, pour l'instant, faute de mieux. Enfin, on n'aurait trouvé que ça, que personne n'aurait douté qu'on était dans un décor de la Renaissance, une grotte, voilà, donc ça aurait suffi, mais évidemment c'est bien pratique d'avoir quelques éléments d'archives en plus. Ceci dit, la description, là par contre, est à peu près muette. Sur les décors du salon de la pièce, on nous dit au mieux qu'il y avait des coquilles et des rocailles. Voilà, hein, ça, la description ne va quand même pas plus loin. Donc lesquels, ben, on commence à les voir. Et alors c'était à peine visible ici, mais quand même, c'est que les pierres sont prises dans une colle de mortier qui elle-même est colorée dans le ton des pierres elles-mêmes. Quand les pierres sont rouges, et on le voit très bien sur l'image de droite, là où le coquillage a sauté, ben, derrière le coquillage, on a un mortier rouge, c'est pas de la pierre. On a une colle, un liant teinté pour être de la même couleur. C'est plutôt blanc là où les pierres sont blanches, je crois que c'est plutôt du gypse, enfin, il faudrait voir, les autres plutôt de la meulière. Enfin, là, les études ne sont pas encore toutes faites pour donner. Et donc, ça alterne, comme vous avez vu tout à l'heure, avec ces dessins faits avec principalement des coquilles externes de moules, voilà. et qui représentent ici, c'est pas des palmes, avec au centre, ça a sauté sur l'un des motifs, mais pas sur celui de droite. On a l'empreinte, on n'a pas le coquillage, manifestement une sorte de coquille Saint-Jacques, quelque chose comme ça, en plein centre, à partir desquels rayonnent. Au-dessus, c'est de la rocaille, en dessous aussi. Bon, on n'a pas le décor complet. On a quelques éléments du décor complet qui nous est donné par la description de Moulin. Est-ce que je vous la retrouve ? Tout le dedans de ce souterrain était incrusté de rocailles et de coquillages nacrés en 100 façons différentes. J'aime bien quand il dit en 100 façons différentes, parce que si c'était partout pareil, on aurait peut-être trouvé, et puis il n'y avait plus besoin de chercher, parce qu'une fois qu'on... Voilà, si c'était le même motif partout, on n'avait qu'à s'arrêter. Je crois que chaque fois qu'on va fouiller un peu plus loin, on aura quelque chose de différent, tant mieux. Formant des compartiments et des mosaïques charmants. C'est pas mal cette description, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il décrit ce qu'on est en train de voir. Il y a dans les quatre pans coupés de ce salon, alors là il est plus précis parce qu'il parle exactement de l'endroit où on a fouillé, des niches de rocailles, donc ça c'est vraiment la nôtre, de rocailles et de coquilles, toujours, hein, donc on fait toujours la distinction, pierre et les coquillages, dans lesquelles on voyait des figures de tritons, c'est ce que vous êtes en train de voir, hein, mais vous n'en voyez sans doute qu'une infime partie. Pensez que ce décor monte sur 6 mètres de haut, là on en a 50 cm, hein. C'est pas grand chose quand même. Je vous vends pas le décor complet. Hein. Dans lesquels on voyait des figures de tritons et de sirènes faites de petits coquillages qui imitaient parfaitement le naturel. Écoutez, moi je trouve que la description elle est pas mal avec, hein, avec ce qu'on voit là. On sait pas trop là ce que ça imite, mais ça imite probablement quelque chose. On recrée du dessin si vous voulez. On a trouvé pas mal de moules dans le remblai, mais là on peut rien en faire. Quand on a les coquillages incrustés avec le plâtre, et je vais vous en montrer évidemment tout un tas d'autres tout à l'heure, dans le remblai, il y a un puzzle à faire. Je ne pense pas qu'on redessinera le triton et les sirènes. Hein. On n'aura pas tous les morceaux du puzzle, mais on sait un peu vers quel genre de décor on va, et les morceaux qu'on trouve, ben voilà, je les associe autant que possible avec la description qui nous est donnée. Voilà les mêmes éléments pris dans la fouille pour vous montrer qu'on a aussi des éléments de fixation particulièrement intéressants, c'est-à-dire des clous en fer qui font jusqu'à 10-15 cm de long, qui nous montrent qu'on a fixé sur place des éléments, disons, préfabriqués, et que jusqu'au clou, il y a du décor, que sur les têtes de clous que vous avez entourées, là, grossies à l'image et pris en détail sur d'autres clous à droite, ont des têtes ornées de fleurs. Voilà. Le clou lui-même est un élément du décor, et c'est évidemment très intéressant de savoir comment ce décor a été fabriqué, comment il a été posé. On se doute bien que les coquilles n'ont pas été posées une par une à Noisy, qu'il y a des blocs complets qui étaient préparés. Alors où ça, évidemment, je n'en sais rien, peut-être au château lui-même, peut-être un peu plus loin. Ça, là, les archives sont vraiment muettes sur cette question. Et je vous remonte la photo qui était en introduction tout à l'heure, nous avons vu le beau panorama de ce décor du salon pour vous montrer sur la gravure de Marot où on se situe. Nous avons bien les trois petites niches dans la niche, pas comment il faut dire, hein, trois petites ouvertures dans la niche que dessine très précisément Marot qui ont été retrouvées, voilà, dans dimensions et dans des proportions tout à fait équivalentes. Autre élément de décor qui a été retrouvé dans les fouilles, les éléments de voûte probablement. Alors, quand on les retrouve, on ne sait pas nécessairement que ça vient de la voûte, mais Marot nous aide. Ce sont des éléments donc octogonaux et carrés avec ces petites rosaces centrales. Rosaces à 5 pétales dans les octogones et Rosas a en bas 7 pétales au milieu des carrés. On a retrouvé suffisamment de fragments, de petits éléments comme celui-ci, pour faire un puzzle. Voilà, je m'amuse un petit peu pour vous montrer la reconstitution, mais ça nous permet de bien savoir comment c'était, donc de dessiner comme ça le motif complet, qui est assez faux ici, au sens où il est tout aplani, alors que c'était un décor de voûte, mais ça permet pour l'instant de situer, vous voyez, les principaux éléments. Eh bien, on les retrouve très exactement dessinés chez notre Marot. C'est exactement ça, hein. il y a les roses, enfin il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Il a bien dessiné les petites rosaces, les capes, etc. Ça donne beaucoup de crédit à Marot, vous voyez, de retrouver ces éléments-là, tout en les enrichissant maintenant. Alors, comme c'est en voûte, et d'ailleurs, quand les éléments sont impossibles à dessiner, parce qu'il n'y a rien de plat, il n'y a rien de parallèle, il n'y a pas un octogone, en fait. Enfin, ils sont octogonaux, mais rien n'est régulier, puisqu'il faut s'adapter évidemment à la forme de la voûte. Vous montrez que dans la fouille, on a retrouvé, alors là, la photo n'est pas terrible, mais en plein milieu de la coupe stratigraphique, des éléments comme ça de voûtement. La photo n'est pas parfaite, mais là on voit déjà un petit peu mieux. Oui, là on voit mieux. Que c'est tout cassé, évidemment, parce que malheureusement, ça c'est le godet quand il a fait la tranchée qui a tapé dedans. Mais sur environ 2 mètres de long, on a en place, enfin en place, non, en place dans le remblai, pas en place dans la structure, des éléments de voûtement tout à fait comparables à ceux que je viens de vous montrer, avec une nuance quand même qui n'est pas négligeable, que vous allez voir tout de suite. Là, c'est pas encore très net. Si, déjà on voit la coloration rouge. C'est que ces éléments de cadres sont peints et dorés. Et là, la dorure, elle n'était pas annoncée. Donc, je vous ai dit que j'aimais beaucoup les archives, hein, les descriptions, parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Mais c'est aussi un petit bonheur de trouver des éléments qui n'étaient pas dits, et notamment ces éléments de dorure. Donc, vous voyez ici le profil de ces petits éléments. C'est intéressant, mais c'est un peu détaillé. Et ici, plusieurs morceaux où on voit très bien que la surface entière. Alors, j'aimais l'hypothèse, mais il faudra évidemment refouiller, en savoir plus, que du côté du salon, entre le salon central et le salon du fond, c'est plutôt là où on a trouvé ces éléments peints et dorés, alors que du côté du vestibule, c'était peut-être moins décoré, ce qui ne serait pas tout à fait incohérent avec une progression, si vous voulez, dans la richesse du décor. La dorure est assez rare, encore à cette époque-là, enfin, elle est de tout temps, elle est assez rare dans les décors de grotte. Mais un élément important dans un lieu sombre et peu éclairé, évidemment, parce que autant la nacre, ça va nous faire des reflets magnifiques, mais les pierres transparentes, le gypse, évidemment, faisaient certainement de très beaux effets dans une certaine pénombre, la dorure à son tour. Et vous voyez les petites rosaces là, nettement dorées, avec, voilà, donc là il y a des éléments qui sont partis ou qui vont bientôt partir en étude au laboratoire des musées de France. Ça vaut le coup de savoir comment tout ça, ça a été fait. C'est absolument, moi je trouve, magnifique. Autre élément de décor qui a été trouvé, d'architecture cette fois, c'est ce qu'on appelle une congélation, une pierre qui représente des stalactites. Et on en avait quelques éléments, disons, assez faibles, hein, dans la description. Par contre, sur Marot, vous voyez, en bas à droite, j'ai encadré un endroit qui m'a l'air de correspondre assez bien à ce qu'on a trouvé. Les proportions ne sont pas bonnes, mais là, voilà, Marot, on ne peut pas lui jeter la pierre, c'est de la miniature, hein, ce qu'il fait. Donc, s'il y a un millimètre de trop, de moins, ce n'est pas très grave. Donc, voilà. Et en plus, on a retrouvé cette pierre quasiment à l'emplacement du vestibule. Là, on est sur le vestibule. Vestibule d'entrée. Donc, une belle pierre, une belle sculpture qui donne envie d'en trouver d'autres. Non, comme tout le reste, hein, on est au début. Voilà, je vous montre maintenant les éléments de décor. Ça, on en a trouvé beaucoup. Celui-là est un des plus beaux, évidemment, parce que ça, cet élément-là cumule la forme travaillée, les rocailles au centre, les coquillages sur le bord. Et c'est ce que nous dit la description. Il nous parle que de motifs d'encadrement et que tout était encadré, coquillage encadré. Et bien, les voilà. On a du coup l'identification en cours pour les pierres, parce que là, je ne suis pas compétent pour les nommer les unes immédiatement. On voit aussi en négatif très bien les moules sur la partie haute, vous voyez, il y a une petite frise de moules. Enfin, il n'y a plus les moules, mais on a le négatif de plâtre. Alors parfois, oui, il n'y a pas toujours le pliage entier, mais d'un point de vue archéologique, si on a le négatif, on a quand même une bonne partie de l'information. Ces cadres aussi, là, qu'il va falloir faire un peu de puzzle pour voir comment tout ça, ça s'enchaîne. À droite, le morceau à droite, il a un petit motif en son centre, dans la partie haute de la photo, lui aussi fait avec des moules, une petite fleur manifestement qui est dessinée. Voilà. On n'a que le négatif des moules, mais elles sont vraiment pas disposées au hasard. Et on a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Bon, là, les fragments de fouilles ne sont même pas tous triés encore. Hein, donc, ils étaient tous observés, ceci dit. Mais il y a encore un gros travail à faire de puzzle, comme je disais tout à l'heure. D'autres éléments de plâtre incrustés de décors de rocailles et de coquillages. Sur la partie gauche, c'est du gypse qui n'est évidemment pas posé n'importe comment. Et puis, des petites cérites, des petits coquillages, des petits gastéropodes plantés d'un point avec la pointe vers le haut, en bas à gauche. À droite, je n'ai pas encore trop su identifier, sorte de corail, mais je n'ai pas la certitude que ce soit des pierres imitant le corail, ou bah, vraiment du corail, ça je ne sais pas trop. Il va falloir que quelqu'un de sérieux se penche là-dessus. Et je ne peux pas être compétent sur tout. Hein. Moi, je trouve ça... Il faut travailler en équipe après. Voilà, des éléments de coquillage aussi, qu'on voit très bien, là, pas besoin de faire des pièces, devant une surface peinte, un peu comme tout à l'heure. Et donc, tous ces morceaux-là, évidemment, il y a un moment, on va pouvoir les enchaîner de l'un à l'autre. J'aime beaucoup ces frises de moules. Vous voyez, tout à l'heure, les moules étaient face externe, c'est pour ça que je l'avais dit, pour le faire remarquer. Et puis, ça soit. Moi, je suis très bien. Et puis, cette fois-ci, elles sont en face interne, voilà, avec une coque dans l'angle, une lutraire à gauche, enfin, vous ne parlez peut-être pas la langue des coquillages naturellement, moi non plus d'ailleurs, hein. Je les découvre au fur et à mesure. Et là, quand on se rapproche sur... Alors là, on est sur une corniche cette fois, sur une moulure. Pareil, la description de Boulin nous parle bien de corniche, et quand on est tout près comme ça, on voit bien que rien n'a été fait au hasard. Voilà, c'est vraiment du décor. On n'a pas jeté les coquillages sur le plat. Là. On a vraiment un motif, un dessin, avec des faces internes, nacrées, des faces externes, aussi belle d'ailleurs, mais qui, voilà, tout ça, ça jouait sur... Oh là, pardon, j'en ai passé une trop vite, mais je vais la remontrer, voilà. Avec ces turritelles au milieu, à trois faisceaux, comme ça. Je vous donne pas toujours tous les noms, parce que je m'en souviens pas toujours. Hein. Peut-être les voir passer après. Un petit gastéropode, là, au milieu de deux bivalves, parce que c'est les deux grandes catégories, hein. On a un peu de tout. Envie de les regarder plus longtemps, mais je ne vais pas vous garder jusqu'à minuit, donc il faut que j'avance un petit peu. J'ai proche de la fin, je vous rassure. On a vu là vraiment pas le plus. Voilà, les voilà tous d'un coup. Tiens, Claude qui s'est promené à l'étage en dessous, mais c'est pas normal. Donc vous voyez les différents types de coquillages que nous avons, du carpe, Claude, coquille Saint-Jacques, pour certains des noms plus connus que d'autres, comme moule, pétanque, mat, on connaît peut-être un peu moins bien, ou pas toujours sous ce nom-là, lutraire. C'est une terminologie que je propose, mais qui méritera d'être affinée. Et puis, côté gastéropode, une belle variété. Les plus beaux, c'est les ormeaux, manifestement. Mais, enfin non, les plus beaux, c'est les deux du bas, les strombogites. Alors, celles-là, on ne les a pas trouvés en contexte décoratif. Donc, on a les deux morceaux comme ça. Mais on en a vu dans des grottes florentines. Voilà, ça existe en France aussi. Là, par contre, ils viennent de plus loin. Autant les autres, ils peuvent venir aussi bien de l'Atlantique que de la Méditerranée. Là, il y a un travail qui mérite d'être fait. On ne sait pas trop où ils ont été les chercher, mais bah, à l'autre bout du monde, là, les strombogigas, là, ça vient de beaucoup plus loin, par contre. Hein. Et où étaient-ils dans le décor? Bon, là, on ne sait pas. Il faudra en trouver davantage pour... Ils sont magnifiques. Hein. Vous voyez la taille des... Tout est à peu près à la même échelle. Enfin, vous avez à chaque fois une petite mire, mais là, les strombos, ils sont, comme leur nom l'a dit, gigas. Bon, je termine par quelques éléments de frise pour montrer à gauche le dessin tel qu'il est. Et puis à droite, on les a vus assez rapidement passer tout à l'heure. Ça associe 2, 3, 4, 5 coquillages différents. Alors, il faut dire coquilles, en fait. En réalité, coquillages, c'est quand il y a le corps. Hein, donc, l'abus de langage. Ce sont des coquilles, pas des coquillages. Autre, bah, c'est la même, hein, dessinée, pour montrer les agencements. Autre deuxième moulure, avec cette fois... 5 variétés différentes sur 2 faces, enfin c'est en 3 dimensions, quoi. Là, c'était impossible à dessiner, j'ai un mal fou, soit 2 faces, soit du dessus. On arrivera à savoir plus ou moins dans quel sens c'était posé, hein, il y a quand même beaucoup d'éléments, et que, à gauche je l'ai dessiné dans la partie, le sens le plus probable, mais tout ça mérite d'être vérifié. Mais ce qui est amusant, c'est de voir comment il dessine avec tout ça, voilà, c'est ce que la description laissait entendre, mais là on a très clairement comment les choses se font. Ça, c'est une bande, mais une sorte de frise aussi, qui associe, vous voyez, 4 coquillages différents, dont on a là que des empreintes, mais sur d'autres morceaux un peu moins complets, on aura le coquillage entier, ou on aura le coquillage trouvé en remblai. Voilà un peu comment ça peut donner, vu par au-dessus, et vu en coupe, et il n'y a pas grand-chose de plat, mais tout ça, c'est de la corniche, dans des niches circulaires, donc ça bouge. Bon, ben ça, c'est pour rendre hommage à mon équipe, pour vous dire que je n'ai pas travaillé tout seul, quand même. Hein. C'est juste là, je parle. Je ne me suis pas baissé une seule fois pour ramasser quoi que ce soit pendant la fouille. Je n'ai pas nettoyé un coquillage, ou peut-être deux, mais pas plus. Ben, j'avais une belle équipe de fouilles qui m'a aidé cet été, pendant 15 jours, une dizaine de personnes, ce n'est pas négligeable. Ça a permis de faire tout le travail. L'équipe de fouilles, c'est une partie, évidemment, du travail, une partie essentielle, enfin tout est essentiel hein, dans ce genre d'histoire, tous les maillons comptent. Les techniciens évidemment sont importants, j'ai d'entendre à droite, je vous ai parlé d'ailleurs, qui fait la photogrammétrie, la perche, qui travaille aussi au drone, enfin qui fait un travail après admirable en informatique pour recomposer tout ça, ou à gauche, Sylvain Chaumier, et puis un fouilleur, qui lui a fait le plan de la cave, je vous ai montré, et puis mille autres choses, c'est lui qui a dirigé l'équipe sur place, voilà, et voilà donc au travail. Très sérieusement, oui, ça rigole pas complètement, même si on s'amuse quand même beaucoup. Et puis j'ai toute une équipe scientifique, évidemment, autour de moi, je ne peux pas être spécialiste de tout, comme je vous ai dit, donc je m'entoure de toutes personnes nécessaires, que ce soit pour étudier les pierres, les coquillages, les rocailles, les métal, l'architecture, et même les archives, parce que je ne peux pas être compétent sur tout. Évidemment, c'est grâce à toute cette équipe que je peux travailler, que j'ai pu avancer. Voilà le chantier, le site tel qu'il est aujourd'hui. Et puis pour vous montrer les bâches que nous avons mis en rebouchant, ce n'est pas pour pleurer sur cette fouille, c'est pour y revenir. Hein. Mais évidemment, il ne s'agissait pas de reboucher. Le jour où on y retourne, on a protégé d'une manière avec, avant la bâche, il y a tout un caisson de bois qui a été mis. Alors, il ne tiendra pas 150 ans, mais il tiendra jusqu'au moment où on reviendra. Je ne sais pas évidemment ce qu'on en fera. Le projet pour l'instant 2019, cette année je continue à travailler mais sur les vestiges, comme j'ai dit, tout n'est pas encore bien trié, classé. Vous voyez le plan en gris des zones décorées de la grotte et puis avec le contour bleu, quelques pièces, quelques aménagements tout autour. L'idée c'est d'y retourner l'année prochaine et d'aller faire ce qu'on voit en haut de l'image, là où se trouvait la fontaine, là où se trouvait le décor que nous avons vu dans la coupe et qu'il faut aller rechercher maintenant proprement et remonter. Je ne sais pas ce qu'on fera de tous ces décors à moyen terme ou à long terme. Hein. C'est quelque chose qui est d'abord un peu chaud parce que tout ça, ça vient d'être trouvé. Je vois bien que ça intéresse beaucoup l'État, enfin la DRAC, le Service régional de l'archéologie. J'ai été vraiment très bien soutenu quand il s'agissait de faire le projet, mais y compris au vu des résultats. Le conservateur régional s'est déplacé, ce qui n'est quand même pas anodin. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Très franchement, j'en sais rien, mais je réponds à la question que vous avez peut-être envie de me poser. Il y a trois hypothèses, on le laisse sous terre, hein, puis on attend que ça se passe, et d'autres verront plus tard. On crée un mausolée par-dessus, un château, une grotte, une dalle. Bon, il faut certainement là dépenser beaucoup d'argent dans une zone forestière ouverte, où il n'y a rien à proximité, et puis en plus il n'y a aucun réseau qui arrive, pas d'eau, pas d'électricité, rien. Ça paraît quand même assez ambitieux, c'est même pas mon pays qu'on a trouvé. C'est pas mal, hein, mais rester peut-être raisonnable sur ce qu'on a trouvé. Mais c'est immense, vous voyez, on a fouillé de l'ordre d'1% du décor, dans la petite niche en bas qu'on a fouillé, pas plus. Hein. Ouais. S'il y a des niches partout, il en reste 100 fois plus, enfin 99 fois plus, bon, beaucoup plus. On le saura quand on aura fait la deuxième fouille en fonction de ce qui reste dans la partie plus haute où l'élévation est susceptible d'être plus importante. On peut garder un décor sur 50 cm, mais peut-être sur 1 mètre, pourquoi pas sur 2. Voilà, on tombe là, évidemment. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le rebouchera certainement le prochain coup aussi. Mais là, on pourra commencer à avoir un projet concret, muséal, disons. Voilà, parce que si on démonte, ce n'est pas pour le mettre dans un dépôt de fouille, hein, sinon vraiment autant le laisser sous terre. Ça lui fera, ça se protégera, ça se conservera beaucoup mieux. Si on. Voilà, puis après ça m'échappe, parce que moi j'ai pas à dire ce qu'on doit faire du patrimoine de la France, mais je le remets là, je vous le montre, voyons ce qu'on peut en faire. C'est certainement démontable, hein, on a su démonter des temples en Égypte qui étaient un peu plus importants, on sait démonter des bâtiments quand il s'agit voilà, de les protéger, de les garder quand même en les mettant un peu plus loin, et c'est ce qui me paraît pour l'instant l'hypothèse la plus raisonnable, ce serait de démonter, de réinstaller ça quelque part. Il y a quand même quelques musées consacrés à cette période-là en France qui pourraient être intéressés si on considère que les découvertes ont cette valeur. Je peux le considérer, mais ce n'est pas évidemment à moi d'en juger. Voilà mes différents partenaires que je vous montre à l'écran, l'État, bien sûr, qui finance et autorise, dans l'autre sens, qui autorise et finance les travaux. L'Office national des forêts, qui est gestionnaire du site et qui est un partenaire bienveillant, et deux associations, l'association locale, Renaissance du patrimoine de Noisy-le-Roi, Bailly et Rennes-Moulins, l'association Volute, qui elle vous connaissez peut-être plus parce que c'est l'association d'Annie Getzmann qui intervient à Versailles et à Marly, qui était partenaire aussi, et un autre regard, c'est la société de Lee Dantan qui nous a fait cette merveilleuse 3D. Voilà, je vous remercie.
Présentation passionnante. Je crois que vous pouvez ajouter qu'il y a le site de Hommage sur lequel on trouve des informations, des petits films. Enfin voilà, on peut suivre la campagne.
Oui, sur Hommage, O-M-A-G-E. Free.fr. Il y a aussi un film documentaire qui a été fait pendant la course que vous pouvez consulter. Je ne vous ai pas proposé aujourd'hui. Qu'on peut trouver sur le site.
Alors, si vous n'êtes pas trop réfrigéré, donc il y a un temps pour les questions maintenant, mais on peut aussi prolonger les questions autour d'un verre qui nous réchauffera.